Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et c'est avec une grande joie que je reçois Tommaso Menini.
Cette forme d'accueil qui est typiquement italienne et qui a, entre autres, la capacité d'être verticale et horizontale au niveau de classe et d'âge. La trattoria populaire est un lieu où on peut trouver le grand bourgeois, l'aristocrate, le camionneur, la camionneuse, les riches, les pauvres, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, à la fois en salle et derrière le bar. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a un tout petit peu en France aussi, dans les bistrots, mais pas tout à fait. Dans tout le cinéma, la littérature, l'imaginaire littéraire italien, il y a énormément d'exemples de le grand riche ou le riche ou le mec, la personne très privilégiée qui, quand doit aller manger bien, il va manger dans le truc des pauvres. Et ça, c'est essentiel et totalement étranger, par exemple, à la culture gastronomique française. Et cette verticalité, ce fait d'être un lieu ouvert à tout le monde, toujours. Voilà, c'était ça que je voulais trouver. Et à mon avis, là, il y avait les secrets de cette alchimie qui fait que quand on est dans un resto italien, on est bien.
En plus d'être chef, Tommaso Menini est aussi un brillant auteur qui raconte la cuisine, la restauration de l'intérieur. Après Spaghetti Wars, son deuxième livre, L'écume des pâtes, qui vient de sortir, raconte à la première personne ses pérégrinations à la recherche de ce qu'il nomme la vraie cuisine italienne, qu'il n'a jamais côtoyé professionnellement ayant quitté son pays à 18 ans. De l'art de préparer la carbonara à l'analyse de la figure du tavernier, son récit initiatique plein de vérité se déguste comme une bonne assiette de pâtes, cacio et pépé. Avec Tommaso, nous avons parlé d'Abba, de canon et de la façon dont on dresse des assiettes. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Tommaso.
Bonjour Julie.
T'es arrivé en France pour étudier la littérature et la philosophie contemporaine et non pas la cuisine. Comment tu t'es retrouvé là, la vaste question, mais on commence par là.
Au début, c'était une envie que j'avais, même avant de finir le lycée, même à la fin du lycée, j'avais un peu cette envie. Mais même dans ma famille, j'ai fait partie de cette génération pour qui c'était pas facile de se dire j'ai envie d'être cuisinier. Mes parents n'avaient pas pu étudier autant qu'ils voulaient, même s'ils ont fait des études. Et du coup, leur priorité, vu que j'étais passionné de livres et lecteur, très passionné de ça, était plutôt d'un avenir dans le journalisme universitaire ou dans l'édition, ce qui finalement est arrivé par un biais assez imprévisible. Mais bon, c'était pas facile de leur dire que j'avais envie de cuisiner, du coup je l'ai pas fait tout de suite, et puis je me suis retrouvé à Paris toute seule. Et au bout de 3 ans de fac, ça tournait un peu en rond. Je renie pas ce que j'ai appris, mais ça tournait un peu en rond. Et mon tout premier poste en cuisine était pas loin de entre Belleville et Goncourt, dans un lieu assez atypique qui s'appelle, qui existe toujours et qui s'appelle La Tête dans les Olives, et qui était et est toujours. Je n'y vais pas depuis un moment, mais c'était assez facile niveau cuisine parce que c'était une table unique. C'était un minuscule restaurant où on faisait déguster les produits qu'il y avait et on faisait des petites transformations.
Des pâtes, des choses comme ça.
Voilà. Et surtout des huiles, qui sont le produit phare de Cédric Casanova, qui est le créateur et le patron de cette très jolie petite boîte. Et du coup, comme il faisait lui au début, il y avait des jeunes qui, à la fin de la journée de boutique, sortaient une table et faisaient déguster les choses. Avec 5 ou 6 personnes. Donc des groupes de 5 ou 6 personnes, à l'époque, ça se réservait un mois, deux mois à l'avance. Et du coup, je faisais ça toute la semaine. Et c'est là que j'ai appris à bricoler des trucs en cuisine professionnellement, mais surtout, j'ai appris à raconter ce que je faisais en même temps que je le faisais. Et j'ai jamais arrêté, d'une certaine sorte.
Non, mais comment t'as eu l'idée de postuler là ? C'était...
un pote qui travaillait là-bas et qui m'a dit t'as envie, on parlait de cuisine, on aimait bien, on avait envie, il m'a dit essaye un peu. J'ai commencé à le faire une fois par semaine, et d'un coup je me suis illuminé, j'ai senti que je me voyais très bien dans ce métier, et j'ai toujours eu envie d'écrire depuis que j'ai 15 ans. J'ai longtemps essayé, pendant 8 ans quasiment, je n'écrivais rien parce que je n'avais rien à dire. Dès que j'ai mis les pieds en cuisine, je me suis dit « Ah mais ce monde, depuis l'intérieur, il n'y a personne qui le raconte. » Et avec l'enthousiasme du débutant aussi, je me suis dit « Les gens ont envie d'entendre ça, c'est des histoires d'aventure, c'est Conrad, quoi. C'est comme les grands récits du 19e de Marin. » Et je me suis dit « Allez, puis... » J'ai un peu remis les choses à l'ordre du jour, j'espère, dans le temps. Mais voilà, c'était deux choses qui étaient forcément indépendantes, forcément liées, forcément indispensables l'une à l'autre depuis le début.
Et comment t'as appris au fur et à mesure la cuisine, t'es allé de poste en poste à partir de là. T'as eu le déclic vraiment de dire j'arrête les études et je creuse la cuisine.
J'ai jamais arrêté d'étudier ou de lire, j'ai arrêté d'aller à la fac, mais le déclic, il n'y a pas vraiment eu un déclic. Je me suis immédiatement lancé dans plusieurs aventures plus ou moins intéressantes, plus ou moins nobles dans les termes du business qui était proposé. Aussi par manque d'expérience et par timidité, où souvent on se retrouve à aller dans un restaurant où moins organisé avec un chef ou une structure moins intéressante, parce qu'on a beaucoup d'estime pour les bons et on a peur d'aller se proposer. Du coup,
donc t'es allé voir les mauvais.
Sans le savoir un peu, quoi. C'est surtout que les autodidactes et les amateurs se kiffent beaucoup les uns les autres. Et du coup, quand on est amateur et on commence un peu tout seul, on est très facilement accepté par des gens qui ne reconnaissent pas la différence entre un amateur et un professionnel. Et surtout, ils préfèrent un amateur parce qu'il a le même côté improvisé que... Donc, c'est tout à fait légitime d'être amateur quand on est employé, moins quand on est patron. Surtout parce qu'on ne sait pas gérer les pauvres employés.
Donc je ne te demande pas où tu as travaillé.
Non. Non, c'est vrai qu'il y a des belles histoires et des mauvaises. J'ai travaillé dans plusieurs endroits. On peut en citer quelques-uns.
De l'Est parisien.
Ouais,
tu
surtout
nous les citeras.
Quasiment que ça.
D'ailleurs, tes premières expériences, en tout cas, t'ont inspiré ton premier livre, qui était un essai entre le récit et l'essai Spaghetti Wars, où tu décortiquais notre rapport à la gastronomie, à la nourriture. Et quel est ton rapport, toi, avec la nourriture ?
Ça dépend des périodes. Si en confinement, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à manger énormément de pâtes. Genre, je mangeais 300 grammes de pâtes à la tomate et basilic à midi. Et j'avais rien à faire. Les gens me disaient « Ah, mais t'as grossi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Rien, justement. Je m'ennuyais. Du coup, généralement, quand je suis très pris par beaucoup de choses, par beaucoup d'envie, en réalité, je mange assez peu. Et je perçois le fait de manger comme une perte de temps. Et voilà. quand je me calme un peu, là, pour le coup, voilà, j'arrive à profiter. C'est vraiment plus une question qui concerne les autres que moi-même. Je ne sens pas d'avoir un palais particulièrement fin. J'ai des instincts qui me servent à travailler. Mais j'aime manger simple, et très végétal, beaucoup de légumes. Et j'aime manger un petit bout de viande excellente, mais pas plus. Et le bon poisson, j'en trouve pas depuis 2 ans, franchement. Donc,
La cuisine, c'est aussi une façon de raconter le monde pour toi.
Oui, oui. Ben, moi, j'essaye de trouver dans les noms des plats, dans les couleurs, dans les formes où on met les choses dedans. Je lis et j'essaye de mettre en scène quand je lis, quand je les mange ou quand je les vois, et j'essaye de mettre en scène quand c'est moi qui les cuisine. J'essaie de mettre en scène des choses qui se passent dehors dans le monde. Tout, même une feuille de menthe ou une feuille d'aneth sur un plat, ou beaucoup de feuilles d'aneth sur un plat, raconte quelque chose de celui qui les a mises et du quartier où on est, de l'histoire des gens qui le propriétaire, de la ville où on est, du pays. Et voilà, du coup, on peut soit à la fois interpréter et à la fois mettre ce sens pour dire quelque chose et donc déplacer les sens. Voilà, c'est un peu ça.
Bah toi t'as appris finalement la cuisine professionnellement en France au gré de tes différentes expériences. Est-ce que à un moment t'as trouvé que c'était trop français, et c'était très français peut-être? Et c'est ça qui t'a donné envie ou t'as eu ce besoin en tout cas d'aller voir d'aller explorer la cuisine italienne que tu dis que t'as jamais pratiqué, que t'avais jamais en tout cas pratiqué à l'époque dans ton pays.
Bah, je l'avais pratiqué un peu en France, mais comme cuisine italienne à Paris. La France est le pays où j'ai appris les 3 choses plus importantes que j'essaie de faire, c'est-à-dire aimer, écouter les gens et rôtir la viande. Rôtir la viande en Italie, il n'y avait vraiment pas moyen d'apprendre parce que c'est un pays plus chaud et où on n'est toujours pas capable de faire cuisiner un steak proprement. Alors que cette école française, pour une fois, est faite une fois, on la garde avec soi pour toujours. Et de l'autre côté, j'aimais bien les steak frites. Enfin, je n'avais aucun problème avec ça. J'avais envie de voir ailleurs, de faire autre chose. Je m'apprêtais à avoir 30 ans. Là, je les ai eus à l'automne. Et je me suis dit, à un moment donné... Je suis parti en courant quand je me suis installé en France. Je suis arrivé à 19 ans. Là, ça fait quelques années que j'ai envie d'Italie, que j'ai envie d'essayer, envie de voir. Bah, je vais profiter, partir, aller et voir ce qui se passe pour de vrai là-bas, voir si les choses qui me dérangeaient quand j'étais petit sont encore en place, ou elles ont empiété, ou elles se sont effacées. Voir tout ça, voir s'il y a moyen d'y vivre. Là, après, j'y habite en ce moment. Si je pouvais, dès que je pourrais, je vais recommencer à faire des allers-retours assez souvent. J'avais envie de voir, j'avais envie de faire les comptes avec mon histoire, avec ce que j'avais été, pour faire les comptes, et donc pour ne pas avoir à les faire plus tard.
T'as imaginé cette formation comme un peu comme une quête à la recherche de la vraie cuisine italienne. Ouais, t'avais envie aussi de clarifier un peu les choses vis-à-vis de la cuisine italienne et vis-à-vis de toi-même, mais vis-à-vis aussi des autres, et peut-être du regard qu'on pose sur elle.
Bah, certainement, surtout que j'espérais que le bouquin soit traduit aussi dans le monde. Il est sorti depuis quelques semaines en français et il marche très bien, même si par rapport à l'Italie, l'effet est complètement renversé. Parce qu'en Italie, c'était une histoire qui racontait... parler à ceux qui l'incarnent, et ici c'est une histoire plus exotique mais racontée par quelqu'un qui a une vue très parisienne finalement de la chose, et parce que je me sens un Italien de Paris au bout du compte. Et ce qui je voulais, voilà, justement chercher qu'est-ce que ça veut dire cuisine authentique, vraie cuisine italienne. On en parle beaucoup, c'est des mots qu'on utilise énormément tout le temps, tout le monde essaie d'utiliser, mais ça veut dire quoi? Alors pas certainement celle des origines, parce que les origines, une fois qu'on commence à les chercher, on s'en sort plus. Pas les vraies recettes, parce que pareil. À mon avis, la cuisine authentique et vraie d'un pays, d'un moment, d'une ville, c'est la cuisine qui déplace, qui fait changer les choses, qui fait bouger la scène et qui est le cœur battant, pulsant d'une communauté. Quelle est la vraie cuisine parisienne d'aujourd'hui ? Ça sera dans certains espaces, dans certains restos qui, même dans la dernière année, ont commencé à changer les choses et qui, du coup, vont être imités dans les prochaines années. Ce n'est pas nécessairement une question de mode. Il s'agit aussi de chefs ou espaces à la campagne comme en ville que les jeunes, quand ils les découvrent, vont vouloir envie de reproduire ou vont vouloir envie de se former là-bas. Voilà, c'était... Et donc, la cuisine qui sera importante dans 5 ans et dans 10 ans et qui fera école, indépendamment du prix ou des techniques ou de tout ça. L'authentique, le vrai que je cherchais, c'était ça. Donc, pas du tout le folklore, qui est humiliant pour ceux qui le reproduisent, parce que c'est une façon de s'humilier soi-même. Ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéressait était, voilà, si le bouquin est aussi ma réponse, si tu me dis qu'est-ce qu'on va manger quand on mangera italien dans la meilleure table du monde dans 5 ou 10 ans, c'est ça.
Et donc, tu as choisi les restaurants où tu as voulu aller te former comme ça, t'as pris un peu ton baluchon et t'as commencé à Paris d'ailleurs,
ouais,
avec Giovanni Passerini, et t'es allé d'étape en étape pendant quelques mois avec ta veste de chef parfois tachée. Tes couteaux
à travailler ici, là, quelquefois une semaine, quelquefois deux semaines, quelquefois un mois. Et oui, j'ai choisi les endroits, j'avoue, de façon extrêmement instinctive. On réfléchissait avec l'éditeur depuis le début. Est-ce qu'on va faire un endroit par région en Italie? Mais ça n'avait aucun sens. Même les régions sont des structures arbitraires, comme partout. Donc ça n'avait aucun sens. Donc j'ai assez vite abandonné toute ambition de écuménique ou de ouais, complète. Il n'y a pas le sud d'Italie, dire, il n'y a pas l'Italie méditerranéenne dans le bouquin, parce qu'il n'y a pas de mer méditerranéenne, littéralement. Parce que, à mon avis, c'est une autre histoire, donc c'est un autre bouquin. Et du coup, il y a une cuisine italienne beaucoup plus professionnalisée et moins domestique par rapport à celle qu'on imagine d'habitude, des pâtes aux palourdes et du reste, qui a d'autres problématiques très différentes. Et voilà, donc c'était une histoire... qui est paradoxalement beaucoup plus un type de cuisine qui est beaucoup plus proche de la cuisine française. En réalité, il y a beaucoup d'abats, beaucoup de terre, beaucoup de légumes bizarres, une cuisine d'hiver aussi, même s'il y a des choses qui fonctionnent très bien en été ou qui se font en été, mais la cuisine du sud n'a quasiment pas de cuisine d'hiver, on mange des tomates tout le temps. Et donc voilà, c'était choisi complètement instinctivement, avec après des copains qui étaient là, des gens dans lesquels j'ai beaucoup de confiance, qui m'ont donné des conseils, des regards croisés, des considérations diverses et variées. Mais c'était complètement par instinct et par Instagram aussi. Donc il y a beaucoup d'endroits que j'ai étudiés de loin sur Instagram et je me suis dit... Là, je lis dans ces plats et dans cette communication, dans les mots qu'on utilise, dans le choix des assiettes, dans le choix de l'esthétique des plats. Moi, j'arrive très bien à comprendre comment on travaille derrière et je peux te dire exactement où est la machine sous vide, où est la cellule de refroidissement, rien qu'on regarde dans le lieu, rien qu'en regardant Instagram.
Ce qu'on disait avant aussi, c'est que chaque chapitre, c'est aussi l'occasion d'aborder les dessous, je sais pas si on peut dire les dessous de la cuisine, en tout cas une petite leçon. Pas une leçon, mais une réflexion, en tout cas sur des choses de la gastronomie, mais assez, complètement éclatée. C'est pas, ça peut être très très varié. Tu disais par exemple les problèmes de recrutement et de
rémunération aussi.
Ouais, de rémunération dans la gastronomie. J'ai plus de
le rapport entre les hommes et les femmes. Le rapport avec la famille et le type de famille qui structure un lieu. Je trouve que les meilleurs lieux, les meilleurs restaurants sont des lieux gérés par une famille, mais les familles sont plein de choses différentes, donc pas forcément de son. Surtout parce que nos enfants ont sacrément le droit de faire ce qu'ils veulent, pas de rester bosser dans notre vieille trattoria qui est là depuis 50 ans. C'est très bien sympa, mais on essaie de grandir et de faire grandir des gens libres. Donc, il s'agit de structurer une famille. Voilà. Les lieux où on est bien sont des lieux qui sont gérés par une famille, mais qui est aussi une famille d'élection.
C'est ça aussi, un peu raconter comment l'alchimie aussi se fait dans un restaurant ou ne se fait pas. C'était ça aussi ta quête. Enfin, c'est pas que la vraie cuisine italienne, mais c'est aussi en filigrane.
Je suis parti de ça. Je me suis rendu compte que dans la vulgate, même dans la vulgate, dans les clichés, même français, la trattoria italienne, le resto italien, c'est un lieu qui mène dans l'imaginaire immédiatement. Ah oui, on est bien. C'est un lieu où on est bien, indépendamment de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. C'est un lieu où on est bien. Je me suis dit, mais pourquoi on est tout le monde a tellement cette impression d'être bien quand il est dans un resto italien. Oui, les pâtes sont bonnes et scientifiquement, elles font bien à notre corps et à notre esprit parce que c'est du sucre et du sel, du sucre, du gras et du sel. Donc, notre tête et notre instinct se rappellent du lait maternel quand on mange des féculents et des carbohydrates. Mais tout ne peut pas être là. Tout ne peut pas être là. Et du coup, voilà, je me suis dit, il y a cette forme d'accueil dont je me souviens de mon enfance, de mon adolescence. Cette forme d'accueil qui est typiquement italienne et qui a, entre autres, la capacité d'être verticale et horizontale au niveau de classe et d'âge. La trattoria populaire est un lieu où on peut trouver le grand bourgeois, l'aristocrate, le camionneur, la camionneuse, les riches, les pauvres, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, à la fois en salle et derrière le bar. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a un tout petit peu en France aussi, dans les bistrots, mais pas tout à fait. Dans tout le cinéma, la littérature, l'imaginaire littéraire et italien, il y a énormément d'exemples de le grand riche ou le riche ou le mec. La personne très privilégiée qui, quand doit aller manger bien, il va manger dans le truc des pauvres. Et ça, c'est essentiel et totalement étranger, par exemple, à la culture gastronomique française. Et c'est, voilà, cette verticalité, ce fait d'être un lieu ouvert à tout le monde, toujours, voilà, c'était ça que je voulais trouver. Et à mon avis, là, il y avait les secrets de cette alchimie qui fait que quand on est dans un resto italien, on est bien. Je voulais savoir ça et, par extension, je voulais savoir quelle est la chimie qui fait qu'on est bien dans un resto tout court.
Tu réhabilites aussi le rôle du tavernier.
Absolument, oui, ça c'était une longue... D'ailleurs, j'aime bien dire un mot à propos de ça, parce que le bouquin est magnifiquement traduit par un traducteur star de littérature italienne, qui s'appelle Vincent Reynaud, et qui est un écrivain aussi, un excellent écrivain aussi. Et qui m'a beaucoup supporté et toléré pendant l'édition et la traduction du livre, parce qu'il a malheureusement eu affaire avec un auteur qui parle présentablement français.
Ça va, t'es contente de la traduction?
Et qui a même écrit le bouquin précédent directement. Je suis très content, on a beaucoup travaillé ensemble, c'était passionnant. Ouais. Et là, l'exemple du tavernier, qui d'ailleurs est dans le titre original, c'est le mot « host ». Qui est le patron, le bougnat, la personne qui incarne le bar, le comptoir et la cuisine d'un lieu où on mange. Donc c'est une figure très populaire, très rude aussi, mais rassurante en même temps. Et donc on se demandait comment traduire ce mot qui est en italien est magnifique, parce que host, ça vient de hospes, donc de hôte. Donc c'est celui qui accueille et celui qui est accueilli à la fois. Donc on se demandait comment le traduire, et au bout d'un moment on s'est dit le mot tavernier pourrait être sympa. Et finalement, oui, il y a la bouffe et il y a le fait de boire et de manger, ce qui m'intéressait beaucoup, le fait d'incarner un lieu. Et oui, moi, je me sens tavernier.
C'est vrai que ça s'est complètement... Enfin, c'est peut-être pas complètement, mais en tout cas, ça s'est beaucoup perdu aussi en France. Et c'était quelque chose qui était... tu vois, les restaurants, ils étaient tenus par des restaurateurs et pas des chefs. Enfin, il y a vraiment... Peut-être au début du XXe siècle. Et ça s'est... Enfin, les chefs ont été mis sur le devant de la scène au détriment des personnes qui reçoivent en salle, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a peut-être un retour à ça, en tout cas une prise de conscience aussi là-dessus que c'est hyper important. Et tu vois, aujourd'hui, les restos qui... Enfin, je sais pas, je pense par exemple au Septime, où c'est un duo, mais où tu as aussi un côté très incarné de la salle, on se rend compte que c'est... Ça compte, enfin, et ça fait partie des choses pour lesquelles on se sent bien.
Bah, c'est une évidence, c'est juste que le métier de la salle est beaucoup moins romantique et beaucoup plus difficile à raconter. Ouais. Là, on s'y est beaucoup, on commence à essayer. C'est sûr que de couper un crochon de lait d'une façon particulièrement originale ou trouver des petites herbes sauvages, c'est beaucoup plus facile à raconter et à rendre chic et cool et excitant que de raconter de comment on sèche les verres. Mais c'est quand même vachement important de sécher les verres. Et surtout, on s'en est rendu compte. Nous, pendant cette année, c'est pas qu'on n'avait pas nos restos préférés, on les avait, on pouvait les recevoir dans des boîtes en carton. Et c'était pareil ? Non, franchement.
Bah non.
Franchement, la plupart des gens que je connais ont arrêté de les commander au bout de la deuxième fois. Ou sinon, on continuait parce qu'on avait cet affect et on le faisait pour soutien. Et donc, il faut arrêter de se raconter des histoires. On ne va pas au restaurant pour la bouffe.
Non.
Là, c'est une évidence. C'est fini. On ne va pas au restaurant pour manger. Même si on mange,
pas que pour manger.
On y cherche, on demande beaucoup. Mais on y va pour autre chose.
Bah, et tu y retournes aussi, surtout, j'ai envie de dire. Tu peux y aller pour la cuisine, mais tu y retournes pour autre chose.
Bien sûr, on y va pour essayer la cuisine, pour tenter, pour essayer. Parce que le guide du bon accueil, il n'y en a pas. Il n'y a même pas les mots. Il n'y a même pas les mots parce qu'on est tous différents. Et donc, il y a des gens qui vont être plus contents s'il y a un serveur qui les tape sur l'épaule 10 minutes après qu'ils sont arrivés. Et des gens qui seront beaucoup plus frileux et beaucoup plus intimidés et qui, du coup, auront envie de quelqu'un qui les vouvoie, même si on a le même âge et je vais là-bas depuis 20 ans.
Tu parles d'acrobatie relationnelle. Enfin, en tout cas, la traduction en français, c'est ça.
Bah oui, acrobatie relationnelle, intelligence affective. Être restaurateur, être tavernier, ça ne veut pas dire aimer tout le monde. Ça veut dire avoir une forme d'intelligence affective. J'ai une copine il y a quelques temps qui cherchait du travail dans le social ou dans un cabinet d'aide, de psychologie, je ne sais plus. Et très important, et on lui a demandé... est-ce que vous avez jamais travaillé dans le social, dans l'humanitaire et tout ? Elle a répondu, bah ouais, j'avais fait 10 ans de bar. Elle était prise.
Bon, t'as été bien reçue par les différents chefs où t'es allé travailler ?
Si, assez. Ouais. Bah, y en a plusieurs qui m'ont hébergé d'ailleurs, surtout à la montagne, parce qu'en l'occurrence, moi je me suis toujours déplacé sans voiture.
Oui, tu racontes ton épopée d'ailleurs pour arriver à la montagne.
Je l'ai fait sans vouloir d'ailleurs, oui, bah, l'épopée pour aller à la montagne dans cette vallée qui s'appelle Valvaraïta et qui est dans les vallées occitanes du sud du Piémont. Et donc c'est une vallée qui est 40 km et à la fin il y a la montagne et puis il y a la France. Mais elle est impossible à passer. Apparemment c'est le lieu où Hannibal était rentré. selon les témoignages historiques de l'époque. Mais plus personne n'y est rentré, en fait, depuis Hannibal. Et donc, il faut faire le tour de l'autre côté. Et c'est un lieu magnifique. Et j'ai dû prendre 4 trains, dont un qui venait de rouvrir, avec une voie ferrée qui était fermée depuis 10 ans. Et ça a rouvert le jour où j'étais là. C'était une impression absurde. Et un climat de fête. Et puis un bus, et puis marcher à pied. Au moment donné, je me suis dit qu'il y avait peut-être des loups. Il y avait effectivement des loups, mais j'ai appris que les loups, s'ils ne sont pas sollicités, ils n'ont aucune envie de manger moi. Mais par contre, ils ont envie de manger les brebis du patron du resto qui les élevait.
Ouais. C'est-à-dire qu'il en a mangé une... Il a mangé un mouton? Non, je ne sais pas ce qu'il... Parce qu'il est mort, mais...
Non, il est mort de diarrhée, le pauvre. Ah, bon. Le petit agneau c'est est mort d'une diarrhée, le pauvre. Il y a des chances que je lui ai donné à manger de mauvais foin. On ne saura jamais.
Tu racontes, c'est vrai que tu racontes de façon assez intime. Enfin, je te demandais si les gens t'avaient bien reçu, parce que tu racontes de façon assez intime les expériences que tu as eues et sans avoir peur de pas te mettre à ton avantage. Enfin, tu racontes des anecdotes quand t'enlèves la couenne du guanciale, par exemple, chez Santo Balato. On sent que t'es pas... À plein de moments, on sent que t'es pas à l'aise et c'est marrant de montrer. Enfin, t'avais vraiment envie de montrer la vérité des cuisines aussi.
Bah, c'est normal. Dans la vie, on n'est pas tout le temps à l'aise. si on fait semblant que ça soit le cas, c'est pas intéressant. Si j'avais écrit un bouquin où je me suis posé la question au début, je me suis dit si j'écris un bouquin où j'essaie de me la péter et j'essaie de montrer combien je suis fort et combien je suis bon. Je ne vois pas l'intérêt. Où est l'intrigue? Comment pourra le lecteur ou la lectrice pourra se reconnaître dans ce que je lui raconte? Donc, quand je me plante, et de toute façon, le premier jour dans une cuisine qu'on ne connaît pas, n'importe quel chef se plante. Mmh. Parce que c'est un métier qui est fait sur la conquête du territoire, sur la connaissance des espaces.
Donc, n'importe quel chef se plante. Ce que tu racontes aussi à un moment chez Tripa, je crois, où il faut vraiment. Enfin, je ne sais plus comment c'est dit, mais de prendre son espace et de s'affirmer, en fait.
Oui, quand j'ai eu une discussion avec le sous-chef ou le troisième, ouais. le chef des pâtes à Tripa, qui est ce grand restaurant phénomène milanais des 5 dernières années. Un lieu qui a eu un jour où on n'a pas rempli tous les couverts, c'était le jour du Nouvel An parce qu'ils avaient fait un menu dégustation. Une fois. Il a toujours été blindé depuis qu'il a ouvert, depuis un mois après avoir ouvert. Donc c'est la grande histoire de succès de la restauration italienne des dernières années. C'est le lieu où j'ai passé le plus de temps d'ailleurs. Et au moment donné, j'avais discuté avec... C'est un lieu basé sur les abats, en l'occurrence, mais qui fait aussi plein d'autres choses. Et j'avais discuté avec ce garçon et je lui disais, bah, écoute, moi j'ai pas envie de... Je sens pas le besoin, je suis là pour regarder, je sens pas le besoin
de conquérir
et de prendre mon espace, d'impressionner les autres. Je suis juste là pour me sentir un parmi vous pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Et sa réponse a été, tu sais, la seule façon de se sentir un parmi nous, c'est impressionner.
Impressionner, ouais, c'était ça le terme.
Je ne sais plus. Hein.
Je crois que c'était impressionner. D'impressionner.
Et voilà, donc c'est ça, je raconte des moments de vraie crise où je ne m'en sortais pas, j'avais peur, j'avais envie de me casser, j'avais envie de disparaître. Et c'est des choses qui arrivent souvent dans la carrière d'un cuisinier qui m'étaient déjà arrivées avant.
Tu vois, c'est vrai que ça montre la vérité aussi.
On a envie de partir, ouais. L'ambition et le désir de s'améliorer, de devenir plus de ce qu'on est. Et d'apprendre prend complètement la deuxième place et on a juste envie de ne pas se retrouver dans cette condition. Et ça n'arrive pas nécessairement parce que le chef est un monstre. Ouais, ça arrive même quand un chef n'est pas un monstre.
Tu le racontes, c'est marrant parce que tu racontes qu'il te jetait des coups d'œil un peu. Enfin, on imagine très bien la scène.
Moi, j'étais là.
Et en même temps qu'il était... après, c'était oublié et qu'il n'était pas du tout dur. Mais
non, il n'y avait pas de surtout,
d'animosité.
Il n'y avait aucune raison d'avoir de l'animosité envers moi, mais il n'en avait pas envers les autres non plus. Il pétait un câble où il faisait des reproches très dures et 10 minutes après il se mettait à chanter des chansons de Noël ensemble. Non, c'est pas du tout ça le problème, mais c'est comme dans les bateaux, s'il faut pas faire une erreur, il faut pas le faire maintenant, pas dans 10 minutes. Et je suis désolé, les gens à l'extérieur ne comprennent pas, mais c'est comme ça. Et tous les chefs s'énervent, c'est rien de faire semblant que ça soit pas comme ça. Mais il y a deux types de chefs, il y a les chefs qui s'énervent avec les autres et les chefs qui s'énervent avec eux-mêmes. Donc, idéalement, il faut être le deuxième type de chef. Celui qui s'énerve, le second. Celui qui s'énerve avec soi-même. Moi, j'ai été les deux. Là, le plus souvent, j'arrive à être celui qui s'énerve avec soi-même. Et donc, voilà. Et c'est tout. c'est très difficile à juger, de juger depuis l'extérieur, parce qu'on sent les gens qui crient ou les gens qui tapent fort, ou sont, on perçoit des énergies violentes et dures, mais qui ne le sont pas nécessairement.
Non, c'est mais juste... il y a quand même une... Ouais, enfin, de toute façon, il y a quand même une dureté, je crois, je trouve.
Oui, mais elle est liée au métier. Si on fait des bêtises, si on fait des bêtises avec un bout de poisson et on le conditionne pas bien, les gens seront malades demain. Point barre. Donc, c'est pas une question de politesse ou de... Après, un autre discours est améliorer les conditions de travail, avoir du respect. Donc, je ne cautionne pas pour autant les abus, les violences directes, surtout de genre et ainsi de suite. Les abus et les violences, ce sont des abus dans le reste, comme le sont dans le reste du monde. Mais il y a des codes, quoi. Il y a juste des codes qui, sans mauvaise conscience, sont partie d'une structure et qu'on peut toujours améliorer, mais, et donc rendre plus fluide et plus paisible, mais qui ne le sera pas tout à fait si on essaye de faire toujours le mieux qu'on peut faire. Voilà, parce qu'on ne sera toujours pas loin de la limite.
On apprend aussi dans ton livre la différence entre trattoria et trattoria, et osteria.
Oui.
Qui est la trattoria, je te les ai racontées. La trattoria, c'est donc l'extension, c'est né de l'extension de la cuisine de la maison.
Exact, de la cuisine familiale. Une famille qui a l'impression de bien faire à manger prend un espace pour commencer à le faire pour les autres. Et du coup, il y a souvent, historiquement, il y avait, mais pas nécessairement, les femmes en cuisine et les hommes en salle, mais vice-versa, ou mélangés par oncle et tante et fils et tout. Donc c'est assez libre dans la structure classique.
Souvent familiale.
Souvent familiale. Mmh. Souvent familiale.
Né après-guerre.
Né après-guerre avec le boom, l'expansion économique, le boom économique. Parce que jusqu'aux années 50, les grands restaurants en Italie étaient français. Enfin, faisaient de la cuisine pseudo-française à peu près. Et les restaurants, il y avait pas une classe moyenne qui avait les moyens pour, qui avait la possibilité de, où elle était assez réduite. Donc je dis pas que ça n'existait pas du tout, mais l'âge d'or et la grande diffusion de cette forme de restauration populaire date des années, fin des années 50, début années 50-60, quoi.
Et donc c'est une cuisine qui est très peu, canonisée et protocolaire, si on peut dire, par rapport à la cuisine française, enfin si on peut comparer, parce que c'est une cuisine héritée des traditions familiales.
Tout à fait. Il n'y a pas de double canon, de double ligne, de double tradition comme en France. En France, on mange du steak frites avec une sauce au restaurant, mais évidemment, personne va se mettre à faire un steak avec une sauce au poivre et des frites à la maison. Ça n'a aucun sens, parce que c'est des choses qui ont un sens à partir du moment où on en fait beaucoup. L'huile pue pour la friture et on se brûle. Pour bien faire un steak, on doit dégueulasser toute la cuisine et remplir la salle de fumée et gratter pendant une heure pour que ça s'enlève. Donc, ça ne marche pas. La sauce est compliquée. Ça a sens de faire une sauce quand on en fait beaucoup, pas pour en faire un mini-bol. Et donc, à la maison, on mange autre chose ou on ne mange pas du tout. En France, généralement, surtout pendant ces dernières semaines, j'ai l'impression, où justement, personne n'a envie de manger à la maison. On l'a fait déjà. Et en Italie, non. En Italie, il y a le même canon. Il y a la même tradition. Le répertoire est le même. Donc, on aura des pâtes, du risotto, des viandes en longue cuisson ou des plats au four et plein d'autres choses et des abats, on aura les mêmes à la maison ou au restaurant.
Ce qui nous amène à cette petite réflexion, est-ce qu'on mange mieux à la maison ou au restaurant? Enfin, c'est vrai que c'est une question que tu t'es posée.
En Italie ou en général? En Italie.
En Italie.
Ça arrive. Le seul problème, c'est que c'est scientifiquement impossible à démontrer. Parce que à la maison, il y a une personne qui y va ou un petit cercle d'amis. Au restaurant, les restaurants existent parce qu'il y a des critiques gastronomiques et ce sont des lieux ouverts au public où les gens vont goûter, juger, idéalement en dehors de en faisant abstraction des préférences ou des sentiments. Et ce qu'on a mangé chez la grand-mère, on adore. Moi, j'adore ce que j'ai mangé chez mes deux grand-mères et j'adore les grand-mères de tout le monde. Mais je suis désolé, mais il n'y a pas moyen de le critiquer, d'en faire un mieux ou moins bien. Donc, le monde fonctionne comme ça. Tant que le restaurant existe, il faut être professionnel dans le restaurant et bien manger à la maison. Si on arrive à faire les deux, c'est super. Mais en Italie, ça a été plus compliqué de se professionnaliser. Et du coup, la vague et les professionnels dont je parle, qui ont souvent un passé étoilé, ou une partie de la formation dans des étoilés, mais, ou pas forcément, mais souvent, ou au moins un regard à ce type de cuisine, qui ne font pas du tout une cuisine étoilée, parce qu'ils font une cuisine informelle, et beaucoup, beaucoup moins chère, là, c'est un peu un noyau de un germe, un début de nouvelles tentatives. On t'a dit que se répète dans les décennies, une nouvelle tentative de professionnaliser la cuisine en Italie, qui a énormément de complexité syndicale et de manque de gens pas talentueux, mais manque de gens compétents et formés et bien payés pour faire ce métier. Mais ça, c'est une question très longue. Donc je ne vais pas faire l'analyse syndicale du monde de la restauration en Italie, mais bon, si on ne paye pas assez les gens, on ne mangera pas bien. C'est simple.
Donc on ne sait pas si on mange. Non, pour répondre, ça dépend.
Moi, c'est surtout les générations continuent. On peut faire semblant et se raconter que nos grands-mères ont transmis à nos mères et nos mères ont transmis aux pères, enfin tout le monde a transmis à nous, mais c'est pas vrai. La transmission n'est pas la même, c'est pas vrai. Certains de nos générations ont la possibilité de lire et de choisir et d'étudier et lire des livres de cuisine qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et du coup, on peut apprendre à cuisiner comme au Tolenghi ou comme plein d'autres restaurants magnifiques partout dans le monde. Donc là, en l'occurrence, on cuisinera mieux. Mais le savoir-faire et la transmission qu'on a aussi en Italie d'un monde où le partage du travail entre les hommes et les femmes était différent, on ne l'aura pas. Et entre autres, heureusement, parce qu'il faudrait quand même arrêter le 60%. Je crois que le 50% des femmes en Italie ne travaillent pas.
Ah oui.
Et il y a même un retour culturel d'une envie de rester à la maison dans plusieurs mouvements, surtout dans des contextes pas extrêmement cultivés. L'accès à la culture est extrêmement difficile. Il y a un grand retour de tout ça, et moi ça me rend dingue. L'absence de culture, j'écris des recettes depuis longtemps aussi, en Italie aussi, et je me fais un pari et un effort, une valeur de ne jamais insérer dans mes recettes un clin d'œil à un espace de gestion des enfants ou domestiques féminins. Ce que fait littéralement tout le monde des recettes, donnant par évident que c'est des femmes qui doivent faire à manger, d'accord. Surtout en Italie. On a fait ces petits trucs 15 minutes avant d'aller chercher les enfants à l'école. Non, et ton mec, il fait quoi en fait? Il est où? Donc voilà, ça c'était un message important que j'ai essayé de glisser à droite à gauche plusieurs fois dans le bouquin, surtout pour le contexte italien, mais... Voilà, c'est très bien de manger à la maison, mais qui le fait? Pourquoi? Elle a choisi de le faire? Pas souvent. Donc, à un moment donné, ça vaut le coup de... Vu que les hommes, il n'y a manifestement pas moyen de les mettre à faire quelque chose de plus, on va au resto, quoi.
Moi, j'ai une tradition dans mon podcast. Mm-hmm. C'est une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. Ton plat préféré?
Gnocchi à la romaine.
Ton livre de recettes fétiche?
Ah, celle-là est compliquée. Peut-être le Nose to Tail de St. John à Londres.
Le dernier ingrédient découvert?
Dernier ingrédient découvert, le piment fumé turc, le Urfa Biber. C'est un piment qui est récolté frais, ensuite séché au soleil et quand il est encore chaud, on le met dans des bols. Enfin, dans des bidons étanches, histoire qu'il fermente avec la chaleur, et puis on le refait sécher, on le moule. Ça a un goût de tabac.
Ah ouais. Le truc le plus trash que t'aies mangé?
Ouh là là.
En plus, dans les abats, t'as dû...
Ah, dans les abats, oui, bien
non,
sûr.
Non, je sais pas. Je pense bien aux sûr. Abats parce qu'on parlait d'abats.
Mais... Ah si, ben, bien sûr, c'est facile. C'est même dans, au milieu du bouquin. Les trompes de Fallope. Ah, l'utérus de veau.
De veau.
Oui.
Ton dernier meilleur repas.
Mystère, je ne sais pas. J'oublie toujours tout ce que je mange.
Une technique de cuisine que tu aurais redécouverte récemment. Découverte, je veux dire. Enfin, ce que tu veux, quoi.
Une technique que je travaille beaucoup en ce moment, c'est l'escabèche. Et surtout avec des légumes.
Est-ce que c'est pareil que Sahor?
C'est sensiblement la même chose. Oui, il y a une petite différence dans la gestion du sucre et du vin. Mais ça vient de la même tradition. Et d'ailleurs, l'escabèche existe en Italie aussi, à Naples, où on fait des courgettes, qui sont un plat populaire que tout le monde connaît, tout le monde mange en permanence, et qu'ils appellent zucchine alla scapece. Sauf que personne n'est au courant du fait que c'est un mot espagnol. Ce n'est pas non plus étonnant, parce que les Espagnols ont dominé Naples pendant un bon moment, un petit bout. Mais voilà, donc on mange des courgettes à l'escabèche à Naples, mais on peut le faire avec plein de choses, avec des aubergines, et même des légumes racines, farinés et frits, farinés avec de la farine de pois chiche surtout. J'essaie de travailler beaucoup sur ça en ce moment.
Le chef ou la chef à suivre?
Il y a en Italie, il y a un lieu magnifique, gigantesque, géant, qui est dans le siège national de l'association Emergency et qui est de propriété d'Emergency, mais géré par des jeunes formidables, et qui s'appelle Enoteca Naturale, et qui est à la base un lieu de vin, mais avec un énorme jardin. Il y a genre 150 couverts, et je crois qu'un lieu pareil n'existe pas en Europe avec ce genre de produits et ce genre de cuisine.
C'est où?
C'est à Milan, à côté des colonnes di San Lorenzo, donc dans le centre, entre les colonnes et la Darsena, le début des Navigli, donc des canals. Et la chef s'appelle, est arrivée il y a un an et demi, mais a travaillé de temps en temps, forcément. Elle s'appelle Laura Santosuoso, et elle est très très jeune, et surtout gérer une cuisine naturelle et avec un tel nombre de couverts, en faisant en plus de l'espresso aussi, parce qu'elle fait des fritures.
Folle
et courageuse, et très sympa.
Ça donne envie d'aller voir.
Mais bah surtout, ça sera l'année pour faire les vacances domestiques, donc ça vaut le coup de conseiller des choses pas trop loin, mais dans les pays proches.
Ta musique pour cuisiner?
J'ai deux playlists, une de vieille musique des années 60 italienne et une de musique contemporaine française que j'écoute selon le pays où je suis de façon renversée. C'est-à-dire que pendant cette année, j'ai écouté énormément de l'impératrice Paulo Empan et musique française de ces dernières années. En Italie, j'écoute Paolo Conte en boucle.
Quand je suis
en France, j'écoute Paolo Conte en boucle.
Un compte Insta que tu aimes suivre?
Celui de Rachel Alice Roddy. À mon avis, la meilleure écrivaine de recettes italienne qui vit en Italie, mais qui est fort raisonnablement anglaise.
L'aller-retour est terminé, c'est bon. À un moment, tu dis avoir commencé à faire de la cuisine car tu voulais dresser les assiettes, et finalement, tu finis par faire partie du clan qui dresse à la louche. Visiblement, tu as fait le deuil de ce besoin d'impressionner. Mais qu'est-ce qui guide tes envies et ta cuisine aujourd'hui?
Je trouve que déjà, d'une part, dresser à la louche, comme je dis, un peu... chapitre où j'essaie de faire une théorie de l'esthétique des plats qui bizarrement personne n'avait jamais essayé de faire, donc je me suis dit allez, essayons de s'amuser. À mon avis, le fait de dresser à la louche, donc pour ne pas impressionner, pour ne pas obliger, ça ne veut pas dire de servir à la pelle. Ça veut dire que reproduire une forme de lâcher prise, de relaxation, de nonchalance, même avec du soin, mais avec des éléments très soignés, mais avec en étant plus tranquille et plus serein, qui est la condition du bien-être et du bien-être ensemble, de bien se interagir avec qui que ce soit dans n'importe quel contexte, je trouve. Donc si on est très pressé et très précis dans les petites feuilles et les petits trucs, forcément ça va se sentir et le client ne sera pas tranquille. dans mes envies d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une... à Milan surtout, mais en général, c'est un problème assez, assez partagé. Il y a énormément et de plus en plus de restos végétariens ou vegan, mais il n'y a toujours pas de restaurants qui font des légumes. Et donc, je comprends la nécessité et l'obligation et l'envie et le désir de manger végétal et, qui est essentiel. La cuisine italienne, en France surtout, recueille beaucoup, énormément ce résultat parce que littéralement, en cuisine française, on ne sait pas quoi faire. Si on enlève la viande, le poisson, on ne sait pas par où commencer parce qu'on n'a pas les bases. Il faudrait peut-être voir un peu plus la cuisine du Sud, mais qui est effacée pour des raisons qui restent mystérieuses à mes yeux. Donc la cuisine italienne a beaucoup récupéré de ça, mais ça ne suffit pas. Et je trouve que quand on mange végétarien, finalement, on mange du riz et du quinoa et c'est pas drôle. Ou des pokés. C'est franchement pas drôle, c'est pas intéressant. Personne n'a jamais consciemment eu envie de manger ça. C'est du repli et du manque d'imagination. Donc, remélanger toutes les traditions et apprendre à travailler les légumes et le végétal avec des traditions croisées, des techniques croisées et toutes les techniques qu'on utilise traditionnellement sur la viande et le poisson, bah là, y a une bonne vingtaine d'années à creuser sans pour autant devenir fondamentaliste. Non, mais sans pour autant devenir fondamentaliste ou... radicaux sur je suis un homme libre, je ne pense pas à ce qu'il faut enlever, je pense à ce qu'il faut rajouter.
Et ce que je voulais dire aussi par ce qui guide tes envies, c'est qu'est-ce qui au fond de toi est-ce que tu cherches à faire plaisir, à nourrir, à...
Oui, bah on verra. Continue à faire le chef consultant sauvage, donc je m'associe à aux entreprises et aux aventures les plus folles et les plus bizarres. Ce qui me passionne, et c'est drôle, parce que si je fais des choses que j'ai déjà fait, je m'ennuie. Je pense, j'espère un jour avoir un lieu qui m'appartient, enfin qui m'appartient au sens sentimental, on va dire, où j'ai envie de passer beaucoup de temps.
En France ou en Italie ?
Plusieurs années de ma vie, je ne sais pas. Il y a plus de chances que ce soit en Italie en ce moment. Mais on verra déjà, il y a plusieurs projets qui vont se faire à la fois en France et en Italie pendant les prochaines années, on verra ce qui aboutit et ce qui prend forme. Et déjà je veux voir comment je me sens dans un lieu que j'ai accompagné à naître, et ce que j'ai déjà fait dans le passé, mais j'étais un peu moins sage que maintenant. Et donc on verra.
Là tu vas pas que signer une... Si, tu vas signer une carte prochainement, enfin une ou des cartes prochainement.
Il y a fort probablement, presque sans doute, un lieu végétarien avec un twist indien et oriental, enfin iranien-indien, on va dire.
À Milan
À Milan, dans le centre-ville, oui.
Avant le mois d'octobre ?
Septembre.
Comme je dois venir au mois d'octobre, je pourrais venir goûter.
Ça sera bien ouvert et bien en place au mois d'octobre, avec un peu de chance.
Tu te présentes comment aujourd'hui ? Chef ? Écrivain ? Auteur ?
Narrateur et cuisinier.
Tu commences par narrateur ?
Oui. Narrateur et tavernier. Tavernier sans tavernier.
J'avais mis tavernier.
Tavernier bientôt. Sans... Mais oui, mais je... Voilà, je suis conteur, c'est une chose qui est plutôt innée, je pense. Et le bouquin et l'écriture n'est rien de plus que ce que j'ai longtemps fait à la fin de la soirée, en me posant à côté de la table et en commençant à raconter mes histoires avant que les gens partent. Et j'ai essayé de le faire avec moins d'alcool dans le corps et plus d'ordre. Mais ce n'est qu'une prolongation de ce travail. Je fais exactement la même chose.
Et tu as besoin, l'un nourrit l'autre ? Comme
oui,
tu disais.
Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai absolument besoin de me lancer dans des projets fous et improbables, parce que sinon, au bout d'un moment, j'aurais fini les histoires à raconter.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois ?
C'est une très belle question qu'on m'a jamais posée. Je me suis senti chef pour la première fois, pour de vrai, quand j'ai commencé à travailler au comptoir à Gambetta, dans la rue Villiers de l'Isle-Adam, qui est le dernier restaurant où j'ai travaillé longuement. Et alors que j'avais déjà été chef d'un restaurant qui s'appelait Capucine, et précédemment le Café dei Choppi, j'y travaillais pas quand ça s'appelait le Café dei Choppi, j'avais travaillé sous Capucine, avec Stéphania d'abord, et ensuite je l'avais géré moi-même.
D'accord.
Pendant quelques mois, ça n'était pas... Enfin, il y avait eu des problèmes. Du coup, ça, j'étais parti assez, enfin, au bout de quelques mois, et j'avais été chef et même manager du restaurant. Et mais là, je m'étais pas senti chef. Voilà, j'ai appris beaucoup en peu de temps, mais je me sentais pas chef. Voilà, j'étais pas, voilà, j'étais pas à ma place entièrement. J'étais pas mûr, j'étais pas suffisamment.
Tu t'es senti chef donc au comptoir. Tu sais, tu te souviens pourquoi?
Parce que, on va dire, quand j'ai commencé à sentir que la création quotidienne du plat était possible et était quelque chose qui m'excitait. Et je suis du genre à faire très peu de mise en place et beaucoup travailler en service parce que je me réveille très tard le matin.
Oui, ce que tu racontes dans les livres.
Je travaille très bien sous pression.
L'adrénaline.
Ouais, je travaille très bien sous pression. Du coup, ça m'est arrivé, je ne le revendique pas et j'en suis pas fier, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver 40 minutes avant le début du service et d'arriver quand même à servir une quarantaine de personnes.
Ah ouais.
Présentablement, avec beaucoup de stress et beaucoup d'émotions, mais d'arriver. Donc voilà, là, l'idée aussi de travailler pour d'autres, sur des temps plus longs et sur ça, c'est aussi pour me forcer à...
T'organiser ?
Oui, non, mais c'est pas une question d'organisation, parce que l'organisation est très claire dans ma tête. Ouais. C'est l'idée d'avoir du calme, de prendre le temps pour faire les choses avec plus de plaisir aussi dans chaque moment, et donc avec plus de précision aussi. Donc, voilà, c'était un peu ça.
Comment vont tes mains aujourd'hui?
C'est horrible, trop bien quoi. j'ai plus de cale, j'ai plus rien. C'est horrible, je recommençais à me bouffer les ongles. Ce que je fais à chaque fois quand je suis trop pressé ou j'ai trop de choses à faire ou trop de temps pour réfléchir surtout, et voilà, hâte de recommencer à les abîmer.
Là tu vas cuisiner un peu à Paris ou t'es...
Oui, quelquefois, pas encore plein de choses sûres, je vais commencer à apparaître ici et là un peu en secret comme j'ai toujours fait, on verra.
Dernière question, je demande tout le temps à mes invités une recette super simple à faire à la maison, de vraie cuisine italienne, si possible.
De vraie cuisine italienne, très bien.
Une recette, pourquoi pas, que tu cuisines soit à la maison, soit que tu cuisineras dans ton futur restaurant.
On va faire les pâtes à la mollica, la pasta con la mollica, les pâtes à la mie de pain. C'est une recette qui m'a apporté beaucoup de chance, parce que c'est la première recette que j'ai publiée en français de ma vie. Et qui d'ailleurs était sorti la semaine où il y avait eu le grand scandale, il y a 4 ans, 4-5 ans, là, il y avait eu le grand scandale de François Fillon, juste avant les élections. Et elle avait été plus lue que les papiers sur Fillon. C'est des pâtes au pain. Donc c'est une recette de pâtes qui sont servies avec de la mie de pain grillée, avec de l'ail, de l'origan, de l'huile, et à peu près tout ce qu'on a envie d'y mettre, du piment, et à peu près tout ce qu'on a envie d'y mettre dedans. Voilà, donc on met tout simplement cette mie de pain grillée qu'on peut garder même plusieurs jours dans un pot. On fait cuire les pâtes et on fait griller la mie de pain dans une poêle pendant quelques minutes avec de l'ail, du piment et ce qu'on veut. Quand elle commence à brunir, on rajoute de l'huile à dorer. Quand elle commence à dorer, on rajoute de l'huile et on remélange. Et voilà. Et puis on la garde et on la met soit sur les pâtes comme si c'était du parmesan, soit sur des salades ou sur n'importe quoi d'autre, des légumes. Et ça a beaucoup de goût. C'est une recette de base sicilienne. Et ça a un goût de poisson, de umami. Et on appelle la mollica di pane tostata, torréfiée qu'on met sur les pâtes, le parmesan des pauvres. Et voilà.
Et tu mets avec quelle sorte de pâte?
Généralement des pâtes longues, mais on fait à peu près ce qu'on veut, des spaghettis ou des linguines. Avec ce côté un peu poisson, ça rappelle voilà, un peu ça. Mais moi, après, J'ai ce problème que je mange énormément et beaucoup plus de pâtes courtes que de pâtes longues.
Moi aussi.
J'ai beaucoup de soucis avec les pâtes longues. Le soir avant de partir, avant de venir à Paris, on allait faire des pâtes au brocoli. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait que des spaghettis. Ça m'a gâché le départ.
Et combien de grammes de pâtes alors? Parce que j'ai vu que tu mettais 300 grammes pour la carbonara ou la...
Oui, mais bon, ça
300
dépend.
Grammes pour deux.
Je mange désormais beaucoup de pâtes, moi aussi, pour une personne, 100 grammes. Et surtout, suivre toujours la règle que j'ai écrite et que j'ai théorisée pour la cuisson, la règle du paquet et de la langue du paquet. Si le paquet est écrit... En italien, il faut cuire le temps indiqué sur le paquet. Si le paquet est écrit en français, il faut cuire le temps indiqué sur le paquet moins de 2 minutes.
Merci Tommaso.
Merci Julie.
Vous venez d'écouter Tommaso Melilli, épisode 20 et dernier de la saison 4. Il n'est pas actif actuellement dans un restaurant, mais vous pouvez retrouver son livre dans toutes les bonnes librairies et évidemment le suivre sur Instagram. La saison 4 se termine aujourd'hui. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter ces histoires de chefs. En attendant la prochaine saison, vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et évidemment nous suivre sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.